Chapitre 3. Alors que Richard faisait mine de s'éloigner, visant la source du cri, Iréna le retint par le bras.
« Non, ils risquent d'être trop nombreux. Nous devons partir d'ici. »«
C'est quelqu'un à nous !» cria le sorcier.
« Oui, mais il est trop tard pour le sauver. Un risque inutile.
Nous n'en savons rien. »
Richard écarta la femme de son chemin.
« Tant qu'il reste une chance, nous ne laissons personne en arrière. »
Callan vint se placer derrière son mari pour empêcher Iréna de le retenir. Ce n'était pas le moment de polémiquer, et de toute façon, il n'y avait rien à débattre. Dans des situations de ce genre, une seconde pouvait faire la différence entre la vie et la mort. Comme son mari, l'inquisitrice avait plus d'une fois payé pour le savoir. De plus, la fureur de l'épée brillait dans les yeux de Richard. Quand il était résolu ainsi, rien ne pouvait se mettre sur son chemin. Cela dit, on pouvait comprendre qu'Iréna s'inquiète pour lui. Après tout, il était le seigneur Ral et le chef de l'Empire d'Aran. Sur bien des points, la survie du monde reposait sur ses épaules. Mais que pouvait en savoir Iréna après avoir grandi dans un endroit si reculé? Au fond, il lui suffisait peut-être d'être au fait du seul danger qui se tapissait dans sa terre natale. Une idée des plus dérangeantes que Callan dut chasser de son esprit tandis qu'elle suivait son mari. Alors que tous les soldats leur emboîtaient le pas, Nietzsche dépassa l'inquisitrice pour avancer sur les talons du sorcier. Tandis qu'elle marchait vers la bataille, toujours fidèle à son ami, les cheveux blonds de la magicienne battaient au vent comme une oriflamme. Sautant par-dessus un tronc abattu, Richard continuait de s'enfoncer dans la forêt encore obscure. Après le départ de Kara, Richard et Callan étant privés de leur pouvoir par la souillure qui les rongeait, Nietzsche avait à l'évidence décidé de se charger de la protection du seigneur Ral et de son épouse. Plus que quiconque, l'ancienne maîtresse de la mort savait que le sort du monde dépendait de Richard. Exactement comme l'aurait fait la mort de Sith, elle entendait s'assurer qu'il ne lui arrive pas malheur. Au moins, songea Callan, le pouvoir de l'épée de vérité n'était pas affecté par la maladie. Incapable de recourir à son don, le sorcier pouvait quand même encore compter sur un certain soutien de la magie. Au lieu de protester parce que Nietzsche lui était passé devant, Callan se contenta très raisonnablement de la suivre. En l'absence de Kara, Nietzsche était la meilleure protectrice possible pour Richard comme pour elle-même. Mais ce dernier point ne comptait guère. Aux yeux de Callan, rien n'était plus important que la sécurité de son bien-aimé. Parce qu'il était essentiel pour le monde, certes, mais surtout parce qu'il comptait plus que tout pour son cœur et son âme. Alors si la magicienne pouvait veiller sur lui, eh bien qu'elle le fasse. Zed avançait sur les talons de l'inquisitrice. Un peu à la traîne, Iréna et Samantha se laissaient emporter par le flot de soldats qui déferlaient derrière leur seigneur. Plusieurs hommes s'étaient déjà déployés sur les flancs, créant une double protection latérale pour leur chef et sa femme au cas où une attaque viendrait d'un des côtés. Submergé par la colère de son épée, Richard ne se laisserait ralentir par rien. Très vite, il distança ses compagnons. Habitué à la nature, contrairement à eux, il se faufilait entre les arbres, contournait les rochers et sautait au-dessus des ruisseaux avec une aisance qu'aucun d'eux ne pouvait égaler. Telle une ombre impossible à arrêter, il s'enfonçait dans la végétation, disparaissant parfois de la vue de ses amis. L'aisance du forestier n'était pas la seule explication. Épuisé par le mal qui la rongeait, Callan ne disposait plus de tous ses moyens physiques. Comment pouvait-on perdre ainsi son souffle avant même d'avoir commencé à courir? Elle qui résistait à tout, comme elle était devenue vulnérable au moindre effort. Richard était atteint du même mal qu'elle, bien sûr, mais en lui, la souillure n'avait pas encore fait autant de dégâts. Au bout du compte, la mort viendrait les chercher tous les deux. Mais si rien n'était fait, elle s'emparerait d'abord de l'inquisitrice. La vitesse à laquelle elle se vidait de ses forces surprit Callan et la terrorisa. Zed et Nietzsche n'avaient fait aucun mystère sur la gravité de la situation. La mort que Jit avait déposée en eux grandissait inexorablement. Si on ne parvenait pas à la retirer, la fin viendrait vite pour l'un comme pour l'autre. Alors qu'elle était sur le point de s'arrêter, les poumons en feu, Zed plaqua une main dans le dos de Callan entre ses omoplates. Moins pour l'aider à tenir debout, en fait, que pour l'assister avec sa magie. S'il ne pouvait pas guérir les deux jeunes gens avant d'être au palais du peuple, Le vieux sorcier était en mesure de transférer des flux d'énergie vitale chez l'un comme chez l'autre. Des flux assez faibles en fait, mais suffisants pour les aider à survivre et à lutter. Pas pendant très longtemps, cela dit. De temps en temps, le cri du soldat retentissait de nouveau devant la petite colonne. Des demi-humains devaient l'attaquer, et ses sauveteurs approchaient de plus en plus du lieu du drame. Mais combien y avait-il d'agresseurs? Comme ils ne faisaient aucun bruit, c'était impossible à dire. Kalan détestait se jeter tête la première dans l'inconnu. Mais c'était la seule solution, sauf à abandonner le pauvre homme, et de ça, il n'en était pas question. À la chiche lumière de l'aube, et avec une frondaison si dense, la jeune femme distinguait les branches une fraction de seconde avant de devoir les éviter. Parfois, elle devait se baisser sur un côté pour éviter de prendre une gifle magistrale. En quelques occasions, elle ne put rien faire sinon fermer les yeux pour les protéger. Et bien entendu, les buissons que Richard écartait devant lui revenaient en position comme la lanière d'un fouet. Finalement, quand il jugea que les obstacles étaient trop gros pour être écartés ou contournés, le sorcier commença à trancher dans le vif avec son épée. Derrière lui, ses compagnons durent se protéger des projectiles végétaux qu'il envoyait ainsi voler dans tous les sens. Le perdant de nouveau de vue, Kalan accéléra le pas, l'aperçut fugitivement entre deux arbres, fut une fois encore distancé, puis rattrapa un peu de terrain et le repéra alors qu'il était en train de sauter par-dessus un tronc renversé ou peut-être un rocher, c'était dur à dire de si loin. Déboulant dans une clairière, la colonne lancée à toute allure se retrouva soudain face à un groupe d'êtres à demi nus, au corps enduit de cendres blanches. Des Shuntooks. Tous penchés sur quelque chose gisant par terre. Dans la pâle lumière, ils ressemblaient à des fantômes. Les yeux cernés d'une peinture noire, ils arboraient de grands sourires carnassiers, également peints, qui évoquaient irrésistiblement des têtes de mort. Le crâne rasé, certains conservaient une sorte de houppe de cheveux tenue droite par des lanières ornées de perles et d'os. De loin, on eût dit une sorte de fontaine capillaire. Délaissant leur proie, plusieurs Shuntooks tournèrent la tête vers Richard, qui sauta par-dessus un dernier rocher et, l'épée tenue à deux mains, leur fondit dessus en hurlant de fureur. En cet instant où le temps parut se pétrifier, Kalan vit que les visages de ces tueurs ruisselaient de sang. Pourtant, aucun d'eux n'avait dégainé son couteau, parce qu'ils se servaient tous de leurs dents.